Alors d'abord, je vous remercie d'être nombreux. Nous sommes très honorés, Nicole et moi, d'avoir une assemblée si importante. Donc, nous vous remercions d'être là. Alors, notre sujet est la diététique chinoise, d'abord. Et nous allons vous expliquer comment nous avons pu, et certains diraient d'ailleurs oser, l'associer à la cuisine française. Et pour vous parler donc de la diététique, je vais d'abord la replacer dans la médecine traditionnelle chinoise. La diététique fait partie donc de la médecine traditionnelle chinoise au même titre que l'acupuncture, le twina qui est le massage, la pharmacopée, le qigong. C'est-à-dire qu'il y a 5 domaines dans la médecine traditionnelle chinoise. Et ces 5 domaines, en fait, ont tous un point commun qu'on verra un petit peu plus tard. La médecine traditionnelle est une pratique trimillénaire, je dirais, puisque le premier texte est le texte de l'empereur Jaune, qui date environ 2600 avant Jésus-Christ. Et il y a eu certainement dans toute la durée de l'histoire chinoise de grands diététiciens, mais d'une manière générale, la distinction entre l'alimentation et la médecine est assez floue. Alors pourquoi elle est assez floue? Tout simplement, et on le verra aussi plus tard, parce que tous les aliments ont une vertu thérapeutique. Donc il n'y a pas d'opposition, on ne va pas manger quelque chose de spécifiquement pour telle maladie, toute la diététique est axée sur aussi la santé. Ces 5 domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui constituent la médecine traditionnelle chinoise, s'appuient sur une pensée chinoise, je dirais globale, universelle. Alors, je ne lis pas le chinois dans le texte, mais j'ai lu un livre d'un auteur qui s'appelle Marcel Granet, qui a écrit La pensée chinoise, et qui dit que pour les Chinois, tout est dans l'univers, tout l'univers est comme l'univers. Alors, on va retrouver ça un petit peu dans la suite. Alors, l'homme, donc, est perçu dans l'univers et faisant partie de l'univers et fonctionnant comme l'univers. Donc, il se situe entre le ciel et la terre et reçoit son influence du ciel. Alors, pour vous donner un exemple, pour que vous imaginiez bien, Léonard de Vinci, par exemple, a représenté l'homme avec les bras comme ça levés et inscrit dans un cercle et dans un carré. C'est exactement le symbole de la pièce italienne de 1 euro. Voilà. Eh bien, il faut imaginer l'homme donc ainsi, pour les Chinois aussi, entre le ciel et la terre. Donc, toute manifestation s'inscrit entre le ciel et le sol, entre le cercle et le carré, entre la qualité et la quantité, et surtout dans l'espace-temps. Alors, en contact permanent entre le ciel et la terre, il puise son énergie, j'ai dit tout à l'heure du ciel, mais il va la puiser aussi de la terre, donc il va puiser au niveau du ciel par les 10 troncs, ce qu'on appelle les 10 troncs célestes, et puis il va puiser son énergie par les 12 branches terrestres. Et cette notion-là va donner naissance au calendrier soli lunaire, dont on parle d'ailleurs dans le livre, parce que nous intéressons évidemment aux saisons, donc le calendrier soli lunaire, qui est le calendrier donc chinois. Ce calendrier solilunaire, vous l'avez compris, comprend aussi bien les 12 mois lunaires plus ou moins longs, et il s'appuie également sur la répartition que nous connaissons, nous, dans notre calendrier. Parce que notre calendrier, c'est un calendrier grégorien. Il est à la fois solaire, mais en même temps religieux. C'est-à-dire qu'il est rythmé par les saisons, Il s'appuie sur les équinoxes et les solstices, et aussi par les fêtes religieuses. Et c'est, pour la pensée chinoise, parfaitement artificiel. Pour la tradition, je dis pensée chinoise, je peux utiliser aussi le terme de tradition, on l'emploie souvent. Donc pour la tradition, aux yeux de la tradition, c'est totalement artificiel. Donc, et nous ici, en Europe, s'il existe un calendrier lunaire, c'est pour les agriculteurs. Ou pour ceux qui sont influencés par la Lune, par exemple. Mais enfin, ça ne fait pas partie du calendrier. Alors qu'en Chine, donc, les deux, ciel et soleil et Lune, sont encore vivaces. Exemple que vous connaissez tous, c'est le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois a lieu à la première nouvelle Lune de l'année, c'est-à-dire à mi-chemin entre le solstice d'hiver, en décembre, et l'équinoxe de printemps en mars, qui est d'ailleurs le début réel de l'année solaire, je dirais, pour les sédentaires, après, il faut remonter un petit peu trop loin pour tout expliquer. Je ne peux pas tout vous expliquer. Alors, l'importance de ça, quelle est l'importance? Eh bien, c'est que les rythmes biologiques obéissent seuls au calendrier traditionnel. Et je vais vous prendre un exemple tout à fait récent, l'exemple des grillons. C'est pas ça. L'exemple des grillons. Alors moi, je vis dans un espace très 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 rural, très nature. Et depuis plus de 10 jours, les grillons chantent. Alors on dit toujours le grillon, il chante parce qu'il annonce l'été. C'est parce qu'il fait chaud. Or vous avez remarqué peut-être que depuis une dizaine de jours, il fait particulièrement froid. Il n'y a pas du tout de soleil. Je vous pose la question, pourquoi ces grillons chantent? Ils ne devraient pas chanter. Eh bien, je suis aujourd'hui convaincue que ces grillons chantent parce que pour eux, c'est le début de l'été. Et si on se place par rapport à la répartition des saisons dans la philosophie chinoise, on sait qu'il y a, chaque saison arrive à son apogée, soit au solstice, soit à l'équinoxe, et ça représente environ 72 jours, et entre ces saisons, il y a une saison intermédiaire, qui est la saison terre. Et cette saison terre, en général, nous permet de nous recentrer et apporte souvent l'humidité qui est nécessaire à la vie agricole. Et c'est ce qui s'est produit il y a un peu de temps, une période donc d'humidité un peu froide, mais je pense que c'est à cause du volcan, alors donc un petit peu froide quand même, et puis après, plus de pluie, mais le début de l'été. Donc, je vous annonce aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'attendre la fin du mois de juin, vous êtes en été. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, la Lune et le Soleil sont deux réalités du cosmos, vous l'avez compris. Et terre et ciel sont indissociables. C'est-à-dire qu'en chinois, la pensée chinoise, on ne dit pas terre et ciel, on dit terre-ciel. Terre-ciel. Si bien que à ce moment-là, terre-ciel, ce sont les deux faces, si vous voulez, du tout, c'est-à-dire du Tao, de la, ce qu'on appelle la voix, de l'indivisible, du Tao, et ce sont le yin et le yang. Alors évidemment, le yin et le yang, c'est une notion fondamentale, évidemment, dans la pensée chinoise. Ils sont en général en opposition, on dit que le yin et le yang s'opposent, mais en fait, ils sont indissociables et complémentaires. Alors, je vais vous donner aussi un exemple. Le jour n'existe que s'il y a la nuit. L'aube n'existe que s'il y a le crépuscule. La réalité d'une potiche, est-ce que c'est le vide qui est à l'intérieur, et qu'on remplit, ou est-ce que c'est l'enveloppe de la potiche? Donc, toujours double vision des choses. Et il faut toujours voir les deux choses, avoir le double regard des deux aspects, de la complémentarité. Et en Occident, ces notions de yin et de yang ne sont pas très, très bien comprises. On a plutôt tendance à dire que le yin et le yang, c'est l'opposition. Et c'est une erreur. C'est pour cette raison que dans le livre de cuisine et de diététique chinoise que nous avons fait, je n'ai pas utilisé spécialement le terme de yin et de yang. Pour ne pas fausser la compréhension, ça aurait été faux. Donc, Je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas un livre de philosophie où je vais expliquer tout ce qui concerne la pensée chinoise. Ce n'est pas une heure qu'il nous faudrait, ce serait beaucoup trop long. Et puis aussi parce que l'idée que nous avons gardée toutes les deux, c'est que nous avons pensé qu'au départ, et vous verrez que ce n'est pas si simple, mais au départ, il y avait l'équilibre entre le yin et le yang. Ça n'existe pas, mais enfin, on l'expliquera plus tard. Mais l'équilibre est acquis. Donc, dans notre idée, c'est que l'équilibre est maintenu par les recettes. Donc, ce n'était pas nécessaire d'entrer dans ces explications qui auraient peut-être faussé, si vous voulez, le sens du livre. Et puis, en fait, aussi, parce que je suis tout simplement partie du 5, moi, dans les explications donc théoriques du livre, et pas du tout du 2. Voilà. Alors, évidemment, on va passer peut-être au 5. Mais avant de passer au 5, je vais vous dire quand même que, en tout cas, le 2 induit forcément l'homme, c'est-à-dire entre les deux, c'est-à-dire le 3. Alors, je vais passer sur la notion, j'avais expliqué, mais comme on ne va peut-être pas avoir trop le temps, les Grecs avaient eu cette idée aussi, comment faire pour expliquer l'inexplicable? Comment faire pour avoir quelque chose de cohérent? Et alors, ils avaient inventé un panthéon avec Zeus, qui était en même temps un homme, avec une famille, des femmes, des maîtresses, enfin. Bon, l'homme était impliqué dans l'explication du monde des Grecs. Et les Chinois, pas du tout. Les Chinois n'ont pas fait ça, ils ont choisi les nombres, et ce sont donc les nombres qui permettent d'aborder l'infiniment grand et l'inexplicable. Et, enfin, c'est mon opinion d'une certaine manière, je trouve que c'est peut-être pour cette raison que cette pensée est restée vivante à travers le temps, et parce que par son abstraction, elle est universelle. Bien. Et d'ailleurs, ces nombres sous-tendent toujours la pensée chinoise. Je vous ai apporté quelque chose de récent, c'est l'exposition universelle de Shanghai. Voilà, photo de Shanghai. Pavillon chinois. Ce pavillon chinois, c'est le carré, avec en plus tous les symboles des chiffres, c'est 60 000 mètres carrés, enfin bon, tout dans les chiffres 60, je n'entre pas dans le détail. Et celui-ci, à votre avis, qu'est-ce qu'il représente? Sinon, le ciel. C'est la terre et le ciel. Vous voyez? Donc on est bien dans cet esprit-là, la terre et le ciel. Alors le journaliste, il a appelé ce bâtiment la palourde. La palourde. Alors qu'on est complètement dans le cosmos. Enfin, franchement. Voilà, c'est pour vous donner une idée de l'actualité, toujours, de cette approche de la pensée chinoise. Alors, l'homme, dans tout ça, il est partie intégrante de l'universel. Il est vivant et au même titre donc que tous les êtres vivants. Il fait partie de la nature et rien ne le différencie du grillon dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui est aussi important. Alors moi je trouve que c'est important parce que ça donne une grande humilité, hein, d'être un atome parmi les atomes. Moi je vous laisse réfléchir à ce propos. Et en tout cas, toutes les grandes philosophies et les grandes religions ont dénié à l'être humain cette nature humaine. Et je pense que ça, c'est très important dans l'époque où l'on vit, parce que on a considéré que l'homme était forcément supérieur à la nature, parce qu'il est capable de changer sa vie, de changer le cours de sa vie, de créer, d'inventer, d'être un artiste. Bon. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que tout en étant capable, en étant peut-être supérieur, il a beaucoup de difficultés aujourd'hui à se retrouver dans la nature. On est peut-être dans un moment où il faudrait repenser à la nature. D'où donc cette cuisine dont Nicole va parler tout à l'heure et qui nous a amené à être très proche finalement de la nature. Alors la pensée chinoise, si vous voulez, peut nous faire comprendre donc, que pour notre équilibre, il faut les deux. et qu'on ne peut pas être trop dans le ciel et pas sur la terre, et à l'inverse, pas sur la terre et pas dans le ciel. Et cela veut dire que esprit et corps donc sont forcément liés. Et c'est un concept aussi qui a été accentué, je dirais, depuis l'époque de Freud, hein, où on dissocie complètement le corps et l'esprit, et où on est en train aujourd'hui de se rendre compte qu'on n'avait peut-être pas tout à fait raison. Et pour revenir au propos de la médecine traditionnelle chinoise, parce que ça reste mon propos, le diabète, par exemple, aujourd'hui, on commence à se poser la question d'un problème psychologique qui peut sous-tendre la maladie du diabète. On commence à se poser la question. Pour les Chinois, c'est l'évidence. Mais pour notre science, c'est difficile. Or, l'alimentation, puis pour revenir à notre sujet, l'alimentation est peut-être le moyen d'introduire plus de naturel dans la vie quotidienne. Alors, un philosophe récent, hein, disait que lorsque l'on ne pense plus qu'à la nourriture, ce qui est quand même le cas, parce que vous avez vu le nombre de livres sur l'alimentation qui sont publiés par moi, c'est que l'on n'a plus rien à penser. Alors, je trouve que c'est terrible comme phrase. Moi, je dirais par rapport à ça, que si on se place par rapport à la pensée chinoise, je dirais qu'on a besoin de se recentrer. Et c'est là où, évidemment, je vais aborder le nombre 5. Comment se retrouver? Comment s'équilibrer? Comment rester enraciné dans le tourbillon cosmique, dans le chaos dans lequel nous sommes? Eh bien, c'est le 5 qui va nous permettre de comprendre. Et donc, les 5 éléments. Le 5, vous savez, c'est 4 plus 1. Alors, 4, c'est tout ce qui est élément fixe. 4 saisons, 4 orients, 4 axes. Et le 1, c'est le tout. Or, tout change avec le temps, hein, tout change dans l'espace, j'ai parlé de chaos, bah, les étoiles, les nuages, les saisons, tout est chaos. Et là, je vais vous demander un peu d'imagination. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez vider votre esprit, vous allez oublier que vous êtes dans cette salle, que vous êtes dans cette rue, que vous êtes dans cette ville, et vous allez penser que vous êtes un homme préhistorique. Alors j'ai choisi Cro-Magnon parce que moi je suis de la Dordogne, je fréquente Cro-Magnon, mais vous pouvez penser à l'homme de Pékin par exemple, puisque c'est aussi un homme préhistorique, et vous êtes assis ou assise dans une prairie. Que percevez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on perçoit? Alors un souffle d'air tiède, des nuages. Vous avez les yeux ouverts, bien sûr. Hein. Maintenant, vous les ouvrez, c'est juste pour vous mettre en situation. Hein. Vous ouvrez les yeux, les nuages, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux, et tout cela change en permanence. Hein. Le chant de l'oiseau s'éteint, le nuage s'effile. En un mot, vos cinq sens perçoivent le mouvement, hein, puisqu'on a parlé de bras, etc. Les cinq sens perçoivent le mouvement de la vie, mais tout vous ramène à la terre, là où vous êtes assis. Si bien que le nombre 5 exprime la vie par les 5 sens qui l'aperçoivent. Et à partir de ce moment, on en élabore une théorie qu'on appelle la théorie des 5 éléments et qui est extrêmement, évidemment, différente de la pensée occidentale. Donc, tout ce qui exprime la vie sur Terre, hein, de tout, des humains, de tout, des oiseaux, des minéraux, enfin tout ce qui existe sur Terre, donc entre dans 5 éléments. Ces 5 éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et tout y est associé. Alors je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'aura jamais le temps, mais je vous ai apporté deux tableaux où vous avez les correspondances cosmiques, les correspondances naturelles, les correspondances humaines, tout est là. Tout ce qui est vivant est là. Voilà. Alors, C'est très important de comprendre en fait pour le livre de cuisine, serait-ce que pour le livre de cuisine, que ce n'est pas une classification par genre comme on fait dans les sciences occidentales, mais c'est une classification par analogie. La pensée est analogique. Et je crois que ce n'est même pas des symboles, hein, ça ne symbolise pas quelque chose, c'est que tout est conçu par analogie. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est invérifiable. Bien. Et c'est même invraisemblable. Et c'est vrai aussi que la théorie des cinq éléments n'est pas une vérité. C'est pas une vérité. Alors, dans la présentation là, de la conférence, j'ai lu avec certaine horreur, je dirais, qu'il était question de croyance. Dieu merci, il ne s'agit pas de croire. On ne demande pas d'avoir la foi hein, dans ce cas-là. On a simplement une autre façon de voir le monde, tout simplement. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, nous avons 1,5 milliard de Chinois qui sont en train d'entrer aujourd'hui dans la vie économique, qui sont en train de devenir une grande puissance. Il serait quand même temps de comprendre comment ils fonctionnent. Parce qu'ils fonctionnent encore comme ça. Bon, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, l'urbanisation sera passée par là, mais je doute. Je pense qu'ils resteront comme ça. Donc, ce n'est pas une croyance, on ne demande pas d'avoir la foi. C'est une autre façon de penser. Donc, c'est une façon d'expliquer le monde par cette pensée analogique. Et c'est tout à fait différent, évidemment, de notre pensée occidentale. Nous, avec notre raisonnement, nous allons commencer par dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors que la pensée analogique va dire... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est visible? Après tout, est-ce que l'invisible ou l'inexpliqué, ça n'existe pas? Je vais vous donner un exemple, encore une fois. Vous connaissez le sophisme Socrate est mortel. Non, c'est pas comme ça, je sais plus. C'est un homme, donc tous les hommes sont mortels. Et la pensée chinoise ne va pas te dire du tout ça. Elle va dire, Socrate est mortel parce qu'il est, comme Confucius, le plus grand des mortels. Mais rien ne dit que l'on ne trouve pas quelqu'un, un jour, de plus grand et qui serait immortel. Voilà. Et alors moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est une ouverture d'esprit. Après tout, on a une perception du visible, on a une perception scientifique, on a tout ce qu'on veut, mais... Qui nous dit qu'il n'y a pas de l'invisible qui existe? Rien. C'est-à-dire que l'on veut... alors c'est important cette pensée-là, parce que c'est le fondement du taoïsme, bien sûr. Hein, et c'est une pensée que l'on retrouve aussi dans la philosophie du 4e siècle, avant Jésus-Christ, qui est dans le stoïcisme. Or, toutes ces pensées-là, qui laissent une formidable liberté quand même d'esprit, eh bien elles ont disparu. Avec les grandes religions et avec les grandes philosophies. Et la science moderne, bien entendu. Donc, aujourd'hui, si une chose est vraie, si elle résiste à la réfutation, c'est-à-dire qu'on critique avant d'admettre. On critique, et puis après, on se dit, ah bah oui, là, peut-être, bon, c'est juste, ah, peut-être là, c'est faux. Mais... c'est aussi une culture que l'on peut critiquer. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés. Prendre un exemple. Difficile de dire que l'eau ne bout pas à 100 degrés. Donc, vous voyez les limites aussi de cette approche-là. Donc, on ne peut pas tout renier de notre culture et adopter complètement. Donc, on ne peut pas parler de croyance, ce n'est pas possible. Hein, on peut simplement dire qu'un petit peu plus d'ouverture nous permettrait de nous intégrer un peu plus dans la nature, dans le monde mathématique, scientifique, technique dans lequel on se trouve. C'est tout. C'est tout ce que l'on peut dire. Mais c'est une autre façon, finalement, quand même, d'aborder la réalité. En tout cas, pour en revenir à la diététique, quand même, qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, ça permet de comprendre pourquoi un praticien de médecine traditionnelle chinoise ne peut pas être un spécialiste et qu'il est forcément un généraliste, parce qu'il envisage la personne forcément dans son ensemble, mais non seulement dans son ensemble d'être humain, mais en même temps dans son ensemble du monde dans lequel vit la personne. Parce que nous sommes, d'un point de vue humain, nous sommes tous faits de la même manière. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont nos habitudes, c'est notre environnement. Voyez, par exemple, si on prend l'exemple d'un maçon ou d'un écrivain, eh bien ce maçon, par son travail, aura des problèmes médicaux de peau, par exemple. Il aura des problèmes d'articulation, il aura de l'humidité dans le corps parce qu'il est dehors, prends un exemple. Et puis un écrivain, eh bien, il aura peut-être besoin de se calmer un petit peu le cerveau parce qu'il réfléchit trop. Il sera très émotif et donc à ce moment-là, il aura des problèmes d'articulation et il aura la crampe de l'écrivain. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes, quoi. Mais dans un cas ou dans l'autre, la douleur de l'écrivain et la douleur du maçon, ça sera une douleur, peut-être même au même endroit, mais ça ne sera pas la même origine. Donc voilà comment le médecin traditionnel chinois peut, par analogie, comprendre les problèmes physiques et psychiques de son patient, puisqu'il n'y a pas d'opposition. Comment il peut analyser l'impact des saisons, c'est ce que nous avons mis dans le livre, alors, par rapport à la diététique, par rapport aux recettes, bien entendu. Identifier les énergies positives, les énergies négatives, etc., etc. Je vais juste vous donner pour ça le lien, comment une personne peut être aujourd'hui, concernée par ce lien entre le corps et l'esprit. Pas plus tard que ce matin, j'avais une personne, j'ai des chambres d'hôtes, et c'était des personnes qui étaient en train de prendre le petit déjeuner, et ils me demandent ce que je fais, alors je leur explique, très bien, et puis je leur dis, vous voyez, par analogie, les organes sont en rapport avec des émotions. Et je dis, la rate, c'est l'anxiété, le poumon, c'est la tristesse, etc., etc. Et elle me dit, vous pouvez recommencer. Alors je recommence. La rate, c'est là, et le poumon, c'est là. Et elle se met à pleurer, mais alors à pleurer. C'est pas le but, hein, ils sont en vacances. Alors, et elle me dit, vous pouvez pas savoir. Elle me dit, j'ai vécu la mort très proche d'une amie. Ensuite, j'ai eu des problèmes pulmonaires alors que je n'ai jamais eu de problème pulmonaire. Et là, vous êtes en train de me dire que c'était lié à la perte de cet ami. Et je lui dis, oui, c'est ça. C'est ça l'analogie. Et je lui dis, mais là, vous allez être guéri parce que vous avez sorti ce que vous aviez en vous et vous avez fait le lien entre cette forte douleur, cette émotion et l'organe qui était concerné. Voilà, ça, c'est l'analogie. Et c'est ce que peut faire donc un médecin de médecine traditionnelle chinoise. Et nous avons appliqué, évidemment, ce raisonnement à la diététique. Alors, ce que nous avons conservé dans le livre, c'est les cinq éléments, les cinq saveurs dont Nicole va nous parler, les cinq natures, et comment on peut ainsi influencer la santé. Là, je vais faire un peu plus vite, peut-être. Alors, qu'est-ce que la santé? Eh bien, je vais vous dire, la santé, c'est quand on n'est pas malade. Alors, c'est une lapalissade, hein, bien sûr. Mais c'est pas si stupide. Vous allez imaginer une balance avec son fléau et ses deux plateaux. Pour maintenir le fléau équilibré, c'est très difficile. Il faut qu'il n'y ait aucun mouvement d'un côté de l'autre, qu'on n'ajoute rien, etc. Bon. Et si ça restait immobile, je peux vous dire que ce serait extraordinaire parce que nous serions immortels. Donc, les plateaux peuvent balancer d'un côté ou de l'autre. Bien, la santé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour les Chinois, vous n'avez pas « je suis guéri, je suis malade ». Vous avez trois, imaginez un demi-cercle, vous le divisez en trois. Vous êtes guéri, effectivement, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de problème. Vous êtes franchement malade, et là ça relève véritablement de la médecine. Et entre les deux, un espace dans lequel vous allez pencher vers la maladie et le mal-être, ou bien un espace où vous allez pencher vers le mieux-être. Et qu'est-ce qui fait pencher la balance? principalement l'alimentation, d'abord, la respiration, puisque ce sont les deux domaines que si nous ne respirons pas et ne nous nourrissons pas, de toute façon, nous mourrons. Donc, les deux, on va balancer d'un côté ou de l'autre, et l'alimentation joue un rôle très important. Donc, dans le livre, on a prévu des recettes d'équilibre pour toujours essayer de rester fléau au milieu du système pour éviter de... Ce n'est pas un livre de médecine, de diététique médicale, comme on l'entend en Occident. Ça viendra peut-être, deuxième livre peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on est soit bien portant, on n'est pas soit bien portant, soit malade. On est bien portant, tant mieux. On est malade, bon, ça arrive. Et puis on peut, par notre vie quotidienne, améliorer notre santé et rester dans cette bascule qui est permanente. Et pour cela, donc, c'est pas la peine de se dire, je vois en ce moment, je vais être un peu critique, mais il sort un livre là sur le comment bien manger pour éviter le cancer. Bon, si je l'ai pas lu, hein, alors je l'ai pas lu, mais rien que le titre me fait dire, si on se contente de l'alimentation uniquement pour éviter le cancer, là on fait une grossière erreur, vu ce que la dame ce matin a ressenti. Les émotions jouent un rôle, l'hygiène de vie joue un rôle. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a que l'alimentation. Alors nous, on n'a pas voulu faire un livre donc, de diététique au sens « je vous soigne grâce à la diététique chinoise » qui est extrêmement pointue et qui se rapproche de la pharmacopée. Nous avons voulu mettre que des recettes qui sont d'équilibre. Voilà, c'est pour ça qu'au début, je disais, je vous expliquerai le sens de l'équilibre. Donc, je voudrais simplement, par rapport donc, aux cinq éléments donc, que nous avons gardés, dire que lorsque nous sommes en bonne santé, les cinq éléments s'engendrent. L'un entraîne donc l'autre. Lorsque le, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, là. Lorsque la santé se dégrade, les éléments s'opposent les uns aux autres, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis si le circuit s'inverse, c'est la mort. Voilà. Donc, faut éviter que le circuit s'inverse, quoi, qu'il s'inverse le plus tard possible. Voilà, donc je passe sur un peu tout ça. Voilà. Alors donc c'est pourquoi je reviens là-dessus. C'est pourquoi la diététique est fondamentale, hein, puisqu'elle fournit et l'alimentation plutôt est indispensable et fondamentale pour fournir l'énergie nécessaire donc au corps humain pour bien fonctionner dans le bon sens. Juste quelques mots sur l'énergie parce que dans le livre j'ai utilisé le terme énergie. Bon. Pour que ce soit plus facile à comprendre, parce que le terme c'est qi en chinois, et le laisser comme ça c'était pas très clair, parce qu'il n'y a pas une bonne traduction en fait. L'idéogramme qi c'est un grain de riz, voyez, dont la vapeur s'échappe, qui est en train de cuire et dont la vapeur s'échappe. C'est franchement intraduisible. Donc, non, c'est vrai, c'est symbolique, c'est la terre et le ciel, c'est difficile à traduire. Donc, dans le livre, j'ai gardé la plupart du temps le terme d'énergie, qui n'est pas une bonne traduction, mais enfin, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, cette énergie, c'est la raison d'être, hein, c'est l'essence de l'homme. Et reconnaître cette essence... Reconnaître ce que l'on est véritablement par rapport à cette énergie, ça donne un sens à la vie. Le sens, dans ce sens-là. Et en ce qui concerne la santé, vous avez deux énergies, enfin c'est la même, hein, mais on lui donne deux noms, Rongqi et Weiqi. Et Weiqi, je voulais insister un tout petit peu là-dessus, c'est une énergie défensive, dont je ne vais pas entrer dans les explications un peu complexes, mais c'est quand même très intéressant de savoir qu'elle existe, parce qu'elle est souvent justement mise à mal par l'air qu'on respire et l'alimentation que l'on a, et elle joue un rôle essentiel dans les défenses immunitaires. Alors je crois qu'il faut penser à ça penser à Weichi, soigner son Weichi pour être justement en bonne santé et choisir la bonne alimentation. Alors, je crois que je vais en rester là. Je voulais simplement dire que pour cela, l'homme, par rapport aux êtres vivants, il est omnivore. Donc, je pense qu'il faut qu'il mange de tout. Donc, c'est pour ça qu'on a dit dans le livre que ce n'était pas un régime du tout, ça n'a rien à voir. Au contraire, Nicole vous dira le nombre de produits que l'on a utilisés, le nombre de recettes qui ne sont pas de 70, mais bien plus que ça. Et je pose simplement une question pour terminer. Nous sommes tellement omnivores, je dirais, qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi manger. Et là, c'est moi qui vous pose une question pour que vous y réfléchissiez. Pourquoi aujourd'hui l'alimentation est-elle devenue anxiogène? Je n'ai pas la réponse forcément. Hein. Ou alors ce serait une réponse chinoise et ce serait trop long à expliquer. En tout cas, pour conclure, on peut dire que tout est comme Paracelse, qui est un auteur, donc un médecin. Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait la différence.
Bon, donc moi, j'ai ma petite partie, c'est de vous expliquer comment on a choisi, comment on a élaboré nos recettes. Donc, Jocelyne vient de vous parler des cinq éléments dans la médecine chinoise, et l'alimentation chinoise est conforme à ces cinq éléments et repose aussi sur l'expérience séculaire de la médecine chinoise. Donc, à chaque élément correspond une saison et une couleur. Chaque aliment a une influence particulière sur un organe. Si bien qu'au cours des cinq saisons et par les cinq saveurs, tous nos organes sont nourris de façon harmonieuse. Alors, au printemps, c'est le vert et l'acide qui nourrissent le foie. En été, c'est le rouge et la mer qui nourrissent le cœur. Pendant la troisième saison terre, le jaune et le doux nourrissent la rate. L'automne, le blanc et le piquant nourrissent le poumon. Et en hiver, le noir et le salé nourrissent le rein. Donc on a appliqué ces cinq principes à nos recettes françaises en mettant dans notre assiette cinq saisons, cinq couleurs, cinq saveurs. Les recettes sont classées par saison, donc dans chacune des saisons. Et pour une saison, chaque recette va privilégier légèrement la saveur qui lui correspond. Mais évidemment, on lui associe les quatre autres saveurs pour garder l'équilibre. En effet, parce que chaque organe est lié aux autres, si quand on mange toujours la même chose ou quand on mange trop d'un même aliment, on finit par blesser un organe. Et quand on blesse un organe, par répercussion, on blesse l'ensemble du corps. Je vais vous donner un exemple. On a fait une recette qui propose du porc, du chou rouge, des pommes, du citron, du gingembre et du vinaigre. C'est une recette d'hiver. L'ingrédient principal sera le porc. Sa saveur est salée. Il sera accompagné de la saveur douce des pommes et du chou, de la saveur piquante du gingembre et de la saveur acide du citron et du vinaigre. Si bien qu'en pratique, notre assiette doit comporter les cinq saveurs, les cinq couleurs, tout en ayant une dominance pour celle de la saison en cours. Par contre, vous remarquerez que les quantités de viande qu'on conseille dans nos recettes sont très inférieures à celles qu'on consomme habituellement. Et par contre, la consommation des céréales et des légumineuses est très supérieure à ce qu'on propose. Et dans la, en diététique chinoise, la répartition se fait, normalement, c'est environ 70% de céréales et légumineuses. Les légumes cuits, 15%. Des crudités, 5%. Des viandes et des poissons, 5%. Des laitages et autres, 5%. Donc, vous voyez, c'est souvent différent de ce qu'on a l'habitude de manger actuellement. Et la diététique chinoise répertorie les aliments aussi en fonction de l'effet thermique qu'ils produisent sur le corps. Ça, c'est la nature des aliments. Certains aliments seront de nature froide ou fraîche. Ces aliments procurent de la fraîcheur, voire du froid à l'organisme. Par exemple, la framboise, la laitue, l'algue sont rafraîchissants. Le concombre, la courgette, le pois chiche sont froids. Et d'autres sont de nature chaude ou tiède. Ces aliments procurent de la tiédeur, voire de la chaleur à l'organisme. Exemple, le poulet, le persil, le poivron rouge, les raisins secs sont tièdes. L'agneau, toutes les grillades, la cannelle et la plupart des épices sont chaudes. Les autres aliments sont de nature neutre. Ils vont nourrir à la fois le yin et le yang. Exemple, le porc, les œufs, le riz, les carottes. Il est bien évident qu'en fonction de la température de la saison, on aura besoin soit de réchauffer l'organisme, soit de le rafraîchir, en laissant toujours une part importante aux aliments neutres dans notre alimentation. Et nos recettes respectent ces principes. Les plats de nature chaude constitueront plutôt l'alimentation de l'hiver. Des recettes de nature fraîche et des aliments crus combattront la chaleur de l'été. L'été. Je vais vous donner un exemple qui est un mauvais exemple. Est-ce que vous avez déjà assisté quelquefois à des repas de famille bien arrosés ? Et quelle est la couleur du visage des personnes à 3 heures de l'après-midi ? Il est souvent cramoisi. Évidemment, ils ont commencé par une poignée de cacahuètes qui réchauffe, une bonne grillade bien chaude, quelques poivrons rouges,
de mouton
encore plus chaud, quelques poivrons rouges qui sont aussi réchauffants, tout ça arrosé d'un bon petit coup de rouge en plein soleil, et après on s'étonne que les gens soient rubicons. Par contre, donc, au printemps, on va préconiser les aliments rafraîchissants, parce qu'ils vont permettre de compenser la montée de l'énergie yang. Tandis qu'à l'automne, les aliments tièdes commencent à réchauffer le yin de l'hiver. Et les aliments neutres auront toujours pour fonction d'équilibrer les recettes. De la même manière, les cuissons sont différentes selon les saisons. Elles seront plus longues en hiver pour réchauffer davantage les aliments, pour soutenir le yang, et elles seront plus douces au printemps ou à l'automne. La diététique chinoise met aussi en avant la dimension énergétique de la nourriture. Donc, comme Jocelyne vous l'a expliqué, chaque aliment a un principe vital, qu'on appelle Xing, qui apporte l'énergie. Donc, on a intérêt à manger des aliments dont le principe vital sera maximum. Et il le sera d'autant plus que l'aliment sera frais, sain, produit au plus près du lieu de sa consommation et aura subi le moins de transformation. Plus un aliment est raffiné, plus il a été fragmenté. Plus un aliment est fragmenté, plus il perd ses éléments subtils. Et finalement, quand on le mange, il est mort. Il ne peut pas transmettre de vie. Et plus l'aliment est irréprochable, plus il apportera de Xing à qui. Ce qui nous permet d'entretenir le Xing, l'énergie vitale que nous avons en nous, qui est innée. Sinon, nous avons besoin pour vivre d'aller puiser dans cette énergie innée et on affaiblit notre organisme. On a besoin, la nourriture nous apporte l'énergie nécessaire à la vie. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on a conseillé en général des aliments bio dans nos recettes. C'est pas par mode, mais c'est un choix qui pour nous est vital. Le tsing est détruit par l'irradiation des rayons X. Or, de plus en plus d'aliments sont irradiés pour les conserver. Et ces aliments sont complètement dévitalisés, il n'y a plus de tsing. De même, un aliment qui est passé au micro-ondes, ben, il subit une forme de désorganisation, il est complètement dévitalisé. Alors, la tentation serait de manger du tout cru. Parce que vous me direz là, j'aurai le tsing maximum, puisque rien ne sera modifié. Mais il ne faut pas oublier que notre estomac, c'est comme une chaudière. Il a besoin de monter tous les aliments à la température du corps pour les digérer. Et sinon, c'est la rate qui vient à la rescousse de l'estomac pour chauffer les aliments, et la rate va se fatiguer. Et l'énergie dépensée par la rate pour chauffer la nourriture risque d'être plus importante que l'énergie que vous aurez apportée par les aliments ingérés. C'est pourquoi on a privilégié des plats, nous, pour garder à la fois le tsing et protéger l'estomac. On a privilégié les plats, ce qu'on appelle le cru cuit, c'est-à-dire cuit rapidement, le plus souvent au wok, qui permet de manger chaud, mais tout en gardant l'énergie des aliments. Ou alors des cuissons douces à la vapeur, qui protègent au maximum le tsing tout en réchauffant les aliments. Voilà. J'avais envie de vous dire ça.
De toute façon, on a pas épuisé le sujet, loin de là. Mais on va arrêter là.